Alors, je ne suis pas Steve, je suis Benjamin, mais je suis content d'être avec vous, les amis, pour pouvoir partager la parole ensemble et pouvoir voir ce que Dieu veut nous enseigner au travers de cette histoire qu'on a lue de Jacob et Ésaü, histoire surprenante. On est effectivement en train de parcourir le récit de Jacob dans la Genèse, dans les chapitres 25 à 35. Et donc, je vous encourage à garder ça sous les yeux. C'est le texte qu'on va voir et regarder ensemble ce matin. Il faut dire que j'imagine que vous serez assez d'accord avec ça, surtout vous qui avez plus d'expérience de vie que moi, probablement la plupart d'entre vous, que les vies humaines sont parfois compliquées, n'est-ce pas ? Les vies humaines sont parfois compliquées. Elles sont parfois un peu comme un nœud qu'on essaye de démêler, un peu comme une guirlande de Noël qui a traîné un peu trop longtemps dans le carton, qu'on essaye de sortir et qui est toute emmêlée. Les vies humaines sont parfois un peu comme ça et on ne sait pas où commencer à démêler la situation. Que ce soit des situations familiales, des situations au travail, le découragement, les hauts et les bas de la vie, le péché personnel, le péché des autres. Et ce nœud qui est immense devient encore plus grand quand on considère les problèmes qu'il y a dans ce monde. Des problèmes qui sont tout aussi complexes, l'injustice, des luttes de pouvoir, une crise sanitaire qui dure et qui dure, des situations politiques, un avenir qui est incertain. Et ça peut se faire surgir des questions en nous. Mais qu'est-ce que Dieu fait dans tout ça ? Est-ce que Dieu s'en soucie ? Est-ce que Dieu peut agir malgré ce nœud complexe qu'est ma vie ? Eh bien, on regarde ce matin cette histoire de Jacob qui vole la bénédiction d'Ésaü. Et l'encouragement de ce texte pour nous, c'est d'apprendre que Dieu agit malgré le chaos humain. Dieu agit malgré le chaos humain. Malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce que les hommes essayent de faire, on va voir que personne ne peut tordre le plan de Dieu. Cette histoire, c'est un peu comme un nœud compliqué, comme un grand chaos. Il s'agit d'une famille, si on le voit, avec toutes les répétitions qui sont là, du mot père, mère, fils, frère, etc. Il s'agit d'une famille, mais d'une famille qui est brisée par l'ambition et par la trahison. Cette histoire, c'est une trahison au sein même de la famille. C'est un frère qui trompe son autre frère et son père. C'est une mère qui manipule son fils et son mari. C'est un frère qui veut tuer son autre frère. On peut dire qu'il ne devrait pas y avoir une super ambiance à table, en tout cas. Et c'est un peu cette famille comme les émissions de télé-réalité. Vous savez, ces émissions où ils mettent plein de stars pour vivre ensemble pendant plusieurs semaines, avec plein de caméras partout, et au bout de 24 heures, c'est déjà le bazar. Tout le monde se crie les uns sur les autres. C'est un peu ça, ici. Une famille où règne la déception, l'ambition, la trahison. Et pourtant, c'est la famille par laquelle la bénédiction de Dieu doit passer. C'est la famille qui fait partie de la lignée choisie qui va nous conduire jusqu'au Messie. Et on va voir dans cette histoire comment Dieu agit malgré tout ce chaos humain pour accomplir exactement et précisément son plan. On va avoir trois enseignements dans ce texte autour de trois personnages qui nous sont décrits ici. On va parler d'Isaac, d'Ésaü et de Jacob. Bien sûr, on parlera aussi de Rebecca. Et donc, premièrement, le premier enseignement, Isaac et la souveraineté de Dieu. Isaac nous apprend des choses par rapport à la souveraineté de Dieu. Et je mentionne que, conformément à mes habitudes, le premier point sera beaucoup plus long, donc restez accrochés avec moi. Donc, il y a deux choses qu'on doit avoir en tête quand on aborde cette histoire-là qu'on a lue dans Genèse 27 et 28. Deux choses qu'on doit avoir en tête, qu'on a vues un peu plus tôt dans le récit de la Genèse et qui nous aident à mieux comprendre ce qui se passe ici. D'abord, on veut se souvenir de ce que Dieu avait annoncé avant la naissance des deux enfants, avant la naissance de Jacob et d'Ésaü. Dieu avait dit à Rebecca dans Genèse 25, au verset 23, « Il y a deux nations dans ton ventre, et deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Dieu avait annoncé un renversement dans l'ordre des choses. Normalement, c'était le plus grand, c'était l'aîné qui était le plus important de la famille. Tous les fils étaient bénis, généralement, comme on le voit dans les autres récits de la Genèse, d'autres exemples, mais il y avait une bénédiction particulière pour le plus grand, pour l'aîné, qui était celui qui allait dominer sur ses frères. Mais là, Dieu annonce que ça sera l'inverse, que ça sera Ésaü, le plus grand, qui sera asservi à Jacob, le plus petit. Donc on a ça en tête quand on lit le reste de l'histoire et quand on aborde cette histoire, on s'attend donc, comme ce que Dieu a annoncé, à ce que ça soit Jacob qui soit béni particulièrement, et pas Ésaü. Et on se souvient d'ailleurs aussi que Ésaü avait vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Donc on a déjà vu le début, on pourrait dire, de ce renversement. Mais deuxièmement, on va avoir en tête que dès le début de l'histoire, il n'y avait pas une super ambiance dans la famille. Dans le chapitre 25, au verset 28, on apprenait que Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Il y avait un peu une bataille de famille, chaque parent a son préféré et chacun va favoriser son préféré. Et c'est exactement ce qu'on voit dans cette histoire. L'histoire commence avec Isaac qui est sur le point de mourir et qui appelle Ésaü pour le bénir, pour lui transmettre la bénédiction familiale de la lignée de la promesse, de la lignée d'Abraham. Et ça, c'est surprenant. En fait, ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Ce n'est pas ce que Isaac aurait dû faire. D'abord parce que, généralement, comme on le voit, je disais dans d'autres exemples de la Genèse, ce n'est pas juste un des fils qui était béni, mais tous les fils qui avaient une bénédiction. Et il y avait une bénédiction particulière pour l'aîné de la famille. Mais là, Isaac, il veut bénir seulement Ésaü, un peu comme en secret, un peu comme en cachette. Ensuite, on sait, en ayant lu les chapitres avant la Genèse, aussi comme on l'a vu, que ce n'est pas Ésaü qui devrait être béni comme ça, mais c'est Jacob. C'est lui, Dieu avait annoncé, qui allait dominer sur ses frères. Et enfin, on a quelques indices, quelques warnings, on pourrait dire, de ce texte, pour montrer qu'Ésaü n'est vraiment pas celui qui devait être béni. À la fin du chapitre 26, il est question des femmes d'Ésaü. Il prend des femmes parmi le peuple ennemi de Dieu, du peuple de Dieu, et pas dans la lignée choisie. Et ces femmes, on voit, sont un sujet d'amertume pour ses parents. Et pourtant, malgré tout cela, Isaac veut bénir Ésaü, parce que c'est son préféré, son chouchou, on pourrait dire. Et ça nous aide à comprendre qu'il n'est pas ici question d'un Isaac qui est vieux, qui est sénile, qui est dépassé par la situation, qui est trahi par sa famille contre son gré, qui est innocent, qui n'y est pour rien. Non, c'est vrai qu'il se fait tromper, mais il n'est pas innocent. Il cherche en fait à aller contre le plan de Dieu en favorisant Ésaü. Et donc, il y a un certain suspense en lisant cette histoire. On se dit dès le début, mais non, mince, c'est Ésaü qui va être béni. Est-ce que le plan de Dieu va échouer? Et puis, on voit Rebecca, la mère de Jacob et Ésaü, qui met en place ce plan. Elle va voir Jacob, son fils préféré. Elle lui dit, OK, Ésaü est parti chasser le gibier. Mais t'inquiète, j'ai un plan. Toi, prends des chevreaux dans le congèle. On va faire un bon plat petit, vite fait, ça va être bien. Et puis, tu vas amener ça à ton père et tu vas prendre la bénédiction à sa place. Et elle apparaît vraiment dans ce texte comme manipulatrice, non seulement ici, mais aussi à la fin, quand Jacob doit fuir, elle manipule à nouveau son mari pour que les choses se passent comme elle veut. Et rappelons-nous qu'elle n'est pas présentée ici comme un exemple de foi, elle fait ça par favoritisme, parce qu'elle préfère Jacob. Et puis elle met ce déguisement à Jacob pour qu'il soit un peu plus poilu. Et il s'approche de son père et il y a du suspense. On se demande, mais est-ce que ça va vraiment marcher? On voit au début que Jacob doute un petit peu. Il reconnaît la voix de Jacob, mais il se dit c'est un peu bizarre. Et Jacob s'approche, Isaac touche Jacob et puis finalement, il lui donne la bénédiction et tout se passe comme Rebecca avait prévu. Elle est soulagée. Mais en lisant cette histoire, il ne faudrait pas voir Rebecca ici, qui est derrière tout ça, à l'œuvre, en train d'accomplir son plan. Non, ce qu'on doit plutôt voir ici, c'est Dieu derrière tout ça, à l'œuvre, en train d'accomplir son plan. La main invisible de Dieu, malgré tout ce chaos et cette trahison humaine, pour que son plan s'accomplisse. Et regardez, il y a presque une ironie ici. Regardez au verset 29, ce que Isaac dit. Il dit, en parlant à Jacob, mais qu'il pense être Ésaü, que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Isaac pense dire ça à Ésaü, son fils aîné, et en faisant ça, il est en train de dire exactement le contraire de ce que Dieu avait annoncé à la naissance, que le plus grand, Ésaü, allait être asservi au plus jeune, Jacob. Il pense dire ça à Ésaü et ainsi renverser la situation. Mais en réalité, sans s'en rendre compte, c'est à Jacob qu'il est en train de dire ça. Et il est en train d'accomplir exactement ce qu'il voulait éviter. Sans le savoir, il est en train de bénir Jacob et d'accomplir exactement et précisément le plan de Dieu. Dieu est souverain. Son plan s'accomplit malgré le péché humain, malgré la bêtise humaine. Alors, quelle est l'application de ce passage pour nous aujourd'hui? Péchez comme vous voulez, faites tout ce que vous voulez, Dieu va accomplir son plan malgré tout? Non. Le fait que Dieu agisse dans cette histoire ne justifie en rien les actes mauvais de Rebecca, de Jacob et des autres. On voit d'ailleurs que les conséquences de leurs actes restent Par exemple, pour Rebecca, en raison de la fuite de Jacob, elle verra plus jamais son fils préféré. Mais ce que cette histoire nous montre plutôt, c'est que Dieu n'est pas limité par notre péché et par nos erreurs. Il accomplira son plan malgré tout et malgré nous. Et ça, chers amis, c'est un encouragement puissant pour nous dans nos situations brisées. Quand on pense peut-être à des erreurs du passé, à des mauvaises décisions, à des choses que l'on a faites et que l'on regrette, mais rien n'est en dehors de la souveraineté de Dieu. Dieu accomplira son plan A. C'est pas qu'on veut minimiser ces choses, si on a péché, on veut s'en repentir sincèrement et on va parler de la repentance, mais on veut ultimement se confier dans la souveraineté de Dieu. Dieu est expert dans le fait d'agir malgré le chaos et la bêtise humaine. Et on voit ça tout au long de la Bible, tout au long de l'histoire et également dans nos vies. Ou peut-être que vous avez peur en voyant comment ce monde évolue. Les normes morales sont de plus en plus basses. La violence semble grandir dans le monde entier. Et vous vous demandez, mais dans quel monde est-ce que mes enfants, est-ce que mes petits-enfants vont grandir? Mais soyez rassurés. Malgré tout le chaos dans ce monde, Dieu est aux commandes. Son plan s'accomplira, son plan de sauver des gens issus de tous les peuples de la terre et de nous amener jusqu'au bout dans la gloire avec lui. Et cette histoire nous montre aussi que personne ne peut aller contre le plan de Dieu. Je suis jeune, donc je passe un peu de temps sur YouTube et Instagram, et je suis attristé ces dernières années de voir de plus en plus de messages qui s'y répandent et qui enseignent l'activation de la destinée. Ah, tu dois entrer dans ta destinée, tu dois activer ta destinée. Voici 5 étapes pour découvrir le plan de Dieu pour ta vie. Comme s'il y avait un plan secret de Dieu que nous, on devait s'efforcer de découvrir, de rechercher, parce que sinon, on risque de passer à côté. Sinon, on risque de manquer ce que Dieu avait prévu et destiné pour nous. Mais ça, les amis, c'est complètement faux. Comme si nous, on pouvait rater, passer à côté de ce que Dieu, le Dieu de l'univers, avait destiné pour nous. Comme si Dieu était limité par notre capacité à découvrir des choses cachées pour agir dans nos vies, pour accomplir son plan. Non, il est bien plus grand que ça. Et cette histoire nous le montre bien. Fais tout ce que tu veux pour aller à l'encontre du plan de Dieu. Fais tout ce que tu veux pour échapper au plan de Dieu. Et tu vas te retrouver comme Isaac en train d'accomplir exactement et précisément ce que tu voulais éviter et ce que Dieu avait prévu. Parce que Dieu est bien plus grand que nos décisions, que nos envies, que nos choix. Il est souverain, son plan s'accomplira. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. C'est un encouragement profond pour nous. Et peut-être qu'on est choqué en lisant cette histoire et on se dit, mais comment est-ce que Dieu peut agir malgré cette situation? Comment est-ce qu'il peut utiliser toutes ces mauvaises actions, qui sont des mauvaises actions, pour accomplir son plan? Mais si on y pense, c'est exactement ce que Dieu a fait à la croix. N'est-ce pas? Se servir du péché humain pour accomplir son plan. On lit dans Acte 4, cette prière qui est faite par les apôtres à Dieu, les versets 27 et 28. « Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. » Qui a crucifié Jésus? Oui, c'est Hérode, Ponce Pilate, les chefs religieux juifs. Mais c'était le plan de Dieu. C'était ce que la main de Dieu et sa volonté avaient décidé d'avance. Et si on y pense, la souveraineté de Dieu est juste incroyable. Voilà Hérode et les chefs juifs qui sont en train de crucifier Jésus et qui pensent en faisant ça se débarrasser de lui, qui pensent avoir enfin réglé le problème pour qu'on n'entende plus jamais parler de Jésus. Mais en fait, ce qu'ils sont en train d'accomplir, c'est exactement ce qu'ils voulaient éviter. Ils sont en train d'accomplir exactement et précisément ce que Dieu voulait. Ils sont en train d'accomplir la raison principale pour laquelle Jésus venait sur terre, pour mourir sur la croix, pour nos péchés. Dieu est souverain. Il accomplit son plan malgré tout. Et c'est comme ça que Dieu agit dans la Bible, dans le monde, dans l'histoire, dans nos vies. Et c'est vraiment encourageant. Mais le deuxième personnage sur lequel j'aimerais qu'on passe un peu de temps, c'est Ésaü. Et on apprend Ésaü qui nous donne des leçons, des enseignements par rapport à la repentance. Ésaü et la repentance. À première vue, quand on lit cette histoire, on a un peu de compassion pour Ésaü, n'est-ce pas? Il nous semble un peu être la victime innocente de tout ça. Et c'est vrai que c'est très cruel ce qu'il vit. C'est sans pitié de la part de son frère et de sa mère en plus. Mais on doit avoir certaines choses en tête pour réaliser que Ésaü n'est pas innocent pour autant. D'abord, on a en tête ce qu'on avait déjà vu au chapitre 25, que Ésaü a méprisé son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et c'est pas juste que Ésaü disait à Jacob « Bon, ok, ce sera toi l'aîné, c'est toi qui iras te coucher plus tard. » Non, c'est pas juste ça dont il était question. C'est quelque chose de bien plus grand que ça, le droit d'aînesse lié aux promesses faites à Abraham, de cette lignée de la promesse. L'aîné, c'était celui qui allait recevoir cette bénédiction particulière de la part de Dieu, qui allait hériter de toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Et Ésaü ne montre aucun intérêt dans ces promesses de la part de Dieu. Il méprise le droit d'aînesse. Et ensuite, comme on l'a mentionné, on voit d'autres indices avec les femmes d'Ésaü à la fin du chapitre 26 qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Et à la fin de l'histoire qu'on a lue au début du chapitre 28, Ésaü se rend compte que les femmes hittites ne plaisent pas à son père, donc il va prendre une autre femme de la lignée d'Ismaël. Mais on a envie de dire, c'est pas ça la solution, Ésaü. C'est pas ça qu'il fallait faire. C'est comme s'il s'embourbait dans son péché en voulant améliorer la situation parce qu'il ne veut pas se repentir. Et c'est bien de repentance dont il est question, qu'il n'est pas, on voit dans cette histoire qu'il n'est pas dans une démarche de repentance, mais qu'il est uniquement dans une démarche égoïste. Regardez sa réaction au chapitre 27, le verset 34. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri, extrêmement amer, et dit à son père, « Moi aussi, bénis-moi, mon père. » Ce n'est pas la repentance qu'il vit ici. Ce n'est pas la conviction de péché ou la prise de conscience qu'il a méprisé Dieu jusque-là. Non, il ressent de l'amertume. Il pousse un grand cri extrêmement amer. Et cette amertume va grandir dans son cœur, va produire de la haine qui va ultimement le pousser jusqu'à l'envie de meurtre envers son frère. Verset 41, « Ésaü prit Jacob en aversion à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. » Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père approchent et je tuerai mon frère Jacob. » Oui, Ésaü a été trompé, il a été trahi. Ce que Jacob a fait reste mauvais et inexcusable, mais la réaction d'Ésaü est elle aussi mauvaise. Elle montre qu'il est égoïste et qu'il voulait uniquement la bénédiction de Dieu pour lui-même, au lieu de se repentir et de reconnaître qu'il avait méprisé Dieu toute sa vie, au lieu de s'attacher à Jacob qui est maintenant la lignée bénie, au lieu de demander à Dieu la grâce de surmonter cette trahison, au lieu de reconnaître que Dieu avait choisi son frère dès le début pour cette bénédiction. La lettre aux Hébreux nous donne un peu plus de précision par rapport à ce qui se passe dans la vie d'Ésaü ici. Je lis dans Hébreux 12, le verset 17, « Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter la bénédiction, en parlant d'Ésaü, il fut rejeté. En effet, il ne trouva aucune possibilité de changement ou aucune place pour la repentance. » Bien qu'il l'ait recherché dans les larmes. Il ne voulait pas se repentir, il n'y avait aucune place dans son cœur pour la repentance, il voulait simplement la bénédiction pour lui-même. Et ça nous aide à comprendre ce qu'est la vraie repentance. La vraie repentance, ce n'est pas juste des larmes, comme Ésaü. Ce n'est même pas beaucoup de larmes. Ce n'est pas juste des regrets ou du remords. Non, non, c'est bien plus que ça. J'ai grandi dans une famille chrétienne et donc j'ai entendu depuis tout petit le message chrétien. Ça n'a pas fait de moi un chrétien pour autant. Et je me souviens que toute mon enfance et mon adolescence, je me suis repenti des centaines de fois peut-être. J'avais cette conviction que j'étais pas forcément aussi bon que je devais l'être. J'avais cette conviction que d'une certaine manière, j'étais coupable devant Dieu. Et donc, toutes les occasions que j'avais, je me repentais à la manière dont je l'entendais. Et je pensais qu'il fallait que j'aie des larmes ou que j'aie une certaine attitude selon ce que je pensais. Mais rien ne changeait dans ma vie. Je voyais un changement de quelques jours ou quelques semaines. Et une fois que je suis devenu chrétien, j'ai réalisé pourquoi. Parce qu'au final, j'aimais trop mon péché. Je n'avais pas compris ce qu'était la vraie repentance. La vraie repentance, c'est une attitude dans notre cœur où on réalise la gravité de notre péché et on prend la résolution de s'en débarrasser. C'est une attitude de dégoût vis-à-vis de notre péché qui nous pousse pas à le laisser là, pas à rester comme on est, mais à nous en débarrasser. Imaginez que vous êtes en train de marcher dans une certaine direction et puis au bout d'une vingtaine de minutes, vous vous rendez compte que vous n'allez pas dans la bonne direction. Bah, qu'est-ce que vous faites ? Ce n'est pas suffisant de vous dire « Ah mince, je ne suis pas en train de marcher sur le bon chemin », mais de continuer à marcher. Ah non, ça n'aurait aucun sens de faire ça. C'est pas suffisant non plus de vous dire « Ah mince, je suis pas en train de marcher sur le bon chemin, ah, demain je ferai demi-tour. » Ben non, c'est pas suffisant ça. C'est même pas suffisant de vous dire « Ah, je m'arrête et je reste ici. » Non, si vous êtes sur le mauvais chemin, la seule bonne chose qu'il y a à faire, c'est de vous arrêter, de faire demi-tour et de retourner sur le bon chemin, de vous détourner du mauvais chemin pour vous tourner vers le bon chemin. Et c'est ça, la vraie repentance. Beaucoup de gens ont des regrets pour ce qu'ils ont fait dans le passé. Mais combien sont prêts à réellement se repentir? Beaucoup de gens réalisent qu'ils ne vivent pas comme ils devraient vivre. Mais combien sont prêts à faire réellement demi-tour pour se détourner de leur péché? Beaucoup de gens pensent qu'il serait bien de se repentir un jour. Mais combien sont prêts à le faire aujourd'hui? Il n'est jamais trop tard pour ça. Peut-être que vous pensez à une situation, une relation qui a été brisée il y a plusieurs années, à une erreur de votre part, et c'est resté comme ça depuis. Et vous dites, mais à quoi bon maintenant? Non, c'est jamais trop tard pour vous repentir devant Dieu. L'appel que Jésus lui-même a lancé, c'est le suivant. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Se détourner de ses péchés pour se tourner vers Jésus, pour se tourner vers la croix, pour recevoir le pardon, la vie nouvelle, un nouveau départ. C'est jamais trop tard. Voilà ce qu'Ésaü nous enseigne sur la repentance. Et le troisième enseignement de ce texte, par rapport à Jacob, c'est un enseignement sur la grâce. Jacob et la grâce. C'est vrai que c'est l'histoire de Jacob, mais il faut dire que Jacob ne fait pas grand-chose dans cette histoire. En fait, c'est même sa mère, Rebecca, qui fait presque tout. C'est elle qui a l'idée du plan, c'est elle qui dit à Jacob quoi faire, et c'est même elle, on voit au verset 17, qui met le plat dans les mains de Jacob, comme pour lui dire « Allez, vas-y, maintenant c'est à toi de jouer ». Mais si on regarde, Jacob est tout aussi coupable, il est tout aussi complice. Oui, au début, Jacob est un peu réticent à l'idée du plan de sa mère quand elle lui présente, mais il n'est pas réticent parce qu'il dit « Ah non, maman, il ne faudrait pas mentir à papa, ça ne se fait pas, ou il ne faudrait pas faire ça, ce n'est pas très bien. » Non, non, il est juste réticent parce qu'il a peur de se faire attraper. Il a peur qu'on voit que ce n'est pas lui qui est Ésaü et que la malédiction tombe sur lui. Donc lui aussi, il est dans une démarche égoïste. Il n'a pas de souci à faire des choses immorales tant que ça sert ses intérêts. Et on voit d'ailleurs qu'il va mentir à plusieurs reprises. Il va mentir trois fois au verset 19. Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü. » Il y a un problème dans cette phrase. Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü. » Premier mensonge. Au deuxième mensonge, au verset 20, Isaac est étonné qu'il ait trouvé si vite du gibier. Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, a fait venir le gibier. » Vers moi, un deuxième mensonge où il inclut Dieu lui-même. Et troisième mensonge au verset 24, « C'est bien toi, mon fils Ésaü ?» Il répondit, « Oui. » Donc on voit que Jacob n'est pas innocent, il est en fait le trompeur par excellence, et la suite de son récit nous le montrera. Et du coup, peut-être qu'en lisant cette histoire, on est un peu choqué que le plan de Jacob fonctionne. Ça nous semble injuste, n'est-ce pas? On aurait bien aimé que ça ne marche pas, qu'il se fasse attraper, on aurait dit, « Ah, bien fait !» C'est bien fait pour toi. Mais le plus surprenant dans cette histoire, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne. Jacob est réellement béni. Au début du chapitre 28 même, Isaac répète la bénédiction à Jacob en sachant cette fois consciemment que c'est Jacob dont il s'agit. Isaac a reconnu que c'est lui qui doit être béni par Dieu et lui donne même la bénédiction d'Abraham. Au verset 4 du chapitre 28, « Qu'il te donne, que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance avec toi. » afin que tu possèdes le pays où tu habites comme immigrant et que Dieu a donné à Abraham. Jacob devient héritier par son stratagème des promesses faites à Abraham. Et peut-être que vous êtes choqué en lisant cette histoire et vous dites, mais ce n'est pas juste que Jacob soit béni. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il ne le mérite vraiment pas. Et si on pense ça, vous savez quoi? Ben, on a tout compris. On a tout compris à cette histoire, on a tout compris à ce récit de Jacob dans la Genèse. Non, Jacob n'est clairement pas celui qui mérite la bénédiction. Et pourtant, Dieu le bénit quand même. Et c'est comme ça que Dieu agit à chaque fois. Dans le livre de la Genèse, dans la Bible, dans nos vies, Dieu bénit des gens qui ne méritent pas de l'être. Des gens comme Jacob, des gens comme vous, des gens comme moi. Et c'est vrai que c'est choquant dans un sens, mais c'est ça la grâce. Et c'est pas que c'est injuste, mais c'est que c'est immérité, c'est un cadeau, une bénédiction gratuite envers des gens qui ne la méritent vraiment pas. Et si on est chrétien, c'est comme ça que Dieu a agi envers nous. Dieu ne nous a pas sauvés parce qu'on avait une morale impeccable. Dieu ne nous a pas sauvés parce qu'on avait atteint un certain niveau de vie. Dieu ne nous a même pas sauvés parce qu'on avait fait notre maximum, notre mieux, et lui, il fait le reste. Non, Dieu nous a sauvés, comme nous dit la lettre aux Éphésiens, parce qu'il est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et cela nous aide quand on se sent trop faible ou trop indigne par rapport aux autres. Pour un chrétien, peut-être, qui se sent impressionné par les autres dans l'Église, qui apparaissent comme des géants spirituels à ses yeux. Mais regarde, eux, comment ils ont des vies bien rangées. Regarde comment ils sont doués pour servir le Seigneur. Regarde comment ils font bien les choses. S'ils voyaient ma vie, ils verraient bien que moi, je ne suis pas digne de servir. Mais ce texte nous montre, non, en effet, tu n'es pas digne. Personne n'est digne. Mais Dieu agit malgré tout, malgré nous, alors qu'on grandit dans la repentance, dans la grâce, il agit pour accomplir son plan. Et cela nous aide aussi quand on se sent trop fort par rapport aux autres, trop important par rapport aux autres, quand on veut que les autres nous remarquent pour tout ce qu'on fait pour le Seigneur, qu'ils voient tout le sacrifice, tout le mal qu'on se donne, et qu'on a peut-être un regard de jugement sur d'autres frères et sœurs qui luttent avec certains péchés, qui pour nous sont dans un lointain passé, qui ont des défis que nous, on ne comprend pas, et on a ce regard de jugement sur eux. Mais tout est par grâce, chers amis. Il n'y a rien que l'on mérite, que Dieu nous doit. Si Dieu n'agissait qu'au travers de ceux qui le méritent, Dieu n'utiliserait aucun de nous. Aucun de nous. Et si Dieu peut bénir même un Jacob, alors qui est-ce qu'il y a qu'il ne peut pas utiliser pour sa gloire? Et enfin, pour chacun de nous, ça nous donne de l'humilité. Vous savez, quand on lit les récits de l'Ancien Testament, on veut souvent appliquer à nos vies ce qu'ont fait les héros de ces histoires et on voit, ah mais nous on est David qui est en train de combattre Goliath, ah mais nous on est Moïse qui est en train de séparer la mer en Dieu. Et souvent on s'applique que les exemples positifs et pas les exemples négatifs, n'est-ce pas? Mais ce texte nous ramène à la réalité. Si on est honnête, on doit réaliser qu'on est plutôt comme les personnages de cette histoire. On est Jacob qui trompe son frère. On est Isaac qui veut aller à l'encontre du plan de Dieu. On est Rebecca qui pense qu'elle va pouvoir faire ce qu'elle veut par sa propre intelligence et sa propre ruse. On est Ésaü qui méprise les choses de Dieu en échange des choses matérielles immédiates. On est tous des mendiants de la grâce de Dieu. De cette grâce de Dieu, et c'est là que je termine, qu'on voit briller à la croix. Alors que Jésus donne sa vie pour nous, alors que Jésus meurt pour prendre sur lui cette condamnation, où le sang du Fils de Dieu coule et que ce sang nous assure le pardon et la bénédiction de Dieu. Comme on va le chanter dans un instant, tes bienfaits et tous tes dons déversés sur nous en Jésus par le précieux sang, et grâce après grâce abonde par le précieux sang de Christ. Je vais prier pour terminer. Et puis je laisserai la place à Steve pour la suite du culte. Prions. Oui, notre Dieu, merci pour cette histoire profondément encourageante qui nous parle de ta souveraineté, que tu es tout-puissant, que tu agis malgré le chaos humain, malgré ce nœud complexe qu'est notre vie, qu'est ce monde. Merci parce que ton plan s'accomplira. Et merci parce que tu nous inclus par grâce dans ce plan. Tu nous as sauvés alors qu'on ne le méritait pas. Et encore aujourd'hui, tu nous utilises, tu nous fais grandir avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'amour, beaucoup de grâce. Merci pour Jésus qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Et on veut confesser, on veut réaliser que c'est par ce précieux sang que nous viennent toutes tes bénédictions et tous tes bienfaits. Et c'est en son nom qu'on te remercie pour ces choses. Amen.
Merci Ben, mais n'est-ce pas une joie de voir